Belle soirée à l'écoute de BXFM, votre radio pop rock à Bruxelles. Nous sommes toujours en direct depuis les Halles Saint-Géry à l'occasion de l'inauguration de l'exposition consacrée aux 40 ans du Mirano. Il y a eu plein de soirées au Mirano, il y a eu des concepts différents et parmi les soirées qui ont fait les beaux jours du début des années 2000 et aussi les années 90 je pense, il y a eu les soirées Dirty Dancing. On est avec Lorenzo Serra, n'est-ce pas mon cher Pierre?
Oui, et puis Lorenzo, Dirty Dancing, vas-y, moi je sais pas bien connu Dirty Dancing, toi mieux, donc tu... interroge-le, puis je parlerai du côté allez, défenseur du monde de la nuit actuellement.
Qui bonsoir beaucoup, Lorenzo.
Bonsoir.
Alors, j'ai une petite question pour les auditeurs et auditrices. Comment les soirées Dirty Dancing sont arrivées au Mirano? Qu'est-ce qui a fait que le concept, vous vous êtes dit, il doit être là et pas ailleurs?
C'est une longue histoire et je pourrais en parler pendant 10 minutes, mais on n'a pas 10 minutes. Donc,
on va essayer de raccourcir.
Long story short. Tout ça remonte au premier jour où je rentre au Mirano, dans les années 80.
Ouais, en tant que client, j'imagine.
En tant que client, ouais. Où j'ai à peine 18 ans. Je suis un amoureux de musique électronique. Et je rentre et puis j'ai affaire à un hall. D'abord à la chaussée de Louvain que tu descends.
Oui.
Tu vires à 90 degrés.
Oui.
Et là, tu te prends un spot en pleine gueule. Et il y a un sélectionneur.
Justement.
Avec une veste en cuir.
Est-ce que tu avais peur de ne pas rentrer?
Et j'avais évidemment peur de ne pas rentrer.
Ben oui.
Et donc tu as les manches qui craquent du sélectionneur, mm-hmm. Et tu te dis, ce soir je rentre pas. T'as passé une heure à mettre ta tenue du samedi soir et tu te dis, ce soir je rentre pas, mais je veux rentrer. Et puis tu passes le sélectionneur, tu rentres
et
dans
alors,
le hall.
Et alors, la première impression,
bah, tu rentres dans le hall, déjà t'as plus le spot en pleine, mm-hmm. en pleine face. Et puis là il y a des basses au loin. Et puis tu rentres, tu te rapproches des basses et tu te rapproches du cœur
du Mirano.
Voilà. Et donc, il bat de la même manière, en fait, hein, puisque
mais plus fort.
On est en BPM, donc tu te rapproches du cœur et de l'enfer, mmh. et de la joie et du paradis. Hein. C'est tout en un.
J'adore l'explication que tu donnes, parce que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne seraient jamais allés au Mirano, ce que tu décris, c'est vraiment l'entrée dans le temple et le beat par minute, le BPM, ça se pulse sur le rythme de la musique électronique et aussi sur les battements du cœur. Le bon rythme, c'est quoi? 128 pour être...
Ah non, pour moi, c'est plutôt vers 110.
110, donc
ouais.
Plus bas,
ouais.
Plus haut.
Ouais.
D'accord. C'est plus une discussion
c'est
puriste.
C'est plus chaloupé, quoi.
Mais on va revenir aux soirées Dirty Dancing. C'est ouais. Toi qui les as créées.
Oui, avec Renaud.
Avec Renaud de Rue.
Oui.
Quelle a été l'idée pour créer les soirées Dirty Dancing? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce que vous avez voulu faire de différent de ce qui se passait ailleurs?
Alors, il faut se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. On sort des années 90. Ibiza, tous les étés, envoie les 20 tubes qu'on va se taper pendant un an. Et nous, ça nous casse la tête. Genre, Moloko, 5 fois par soir, ça va plus le faire. Et on est par ailleurs des garçons amoureux du relief, de ce qui monte et de ce qui descend, et pas du tout du continu.
Donc, pas un beat continu, un toboggan. Et on voilà. Va parler de la suite tout de suite, le temps d'écouter un morceau de musique. Vous êtes sur BXFM avec Lorenzo Serra, on revient immédiatement. Belle soirée à l'écoute de BXFM. Nous sommes toujours en direct depuis les Halles Saint-Géry à l'occasion de l'inauguration de l'exposition consacrée au Mirano. Et Lorenzo Serra est toujours là. Il nous racontait une histoire juste avant le disque que nous écoutions. Et cette histoire, il va la continuer. On parlait du beat, le rythme qui t'a donné envie de danser au Mirano et ensuite de créer les soirées Dirty Dancing. Et donc, vous vouliez faire autre chose que ce que l'on entendait partout ailleurs avec les mêmes disques. C'est ce que tu nous disais.
En gros, nous, on part d'un constat. On le concrétise avec trois soirées. La première s'appelle Future Pop, la deuxième s'appelle Rock Needs Electro Freaks et la troisième c'est Everybody Hates House Music. Donc ça veut clairement dire en trois phrases comment nous on voit le monde, comme un monde futur et pop, avec beaucoup de rock, de l'électro et surtout pas de la house chiante. Et donc c'est pour ça que je parle de relief. Dans notre soirée, tu peux avoir un Rage Against the Machine comme un morceau de Félix da Hauskatte, comme un morceau de Tiga, comme un morceau d'un inconnu. Et par ailleurs, notre ligne éditoriale, elle est très importante parce que notre objectif, c'est de mettre le meilleur de l'international avec tout ce qui naît à Bruxelles et de refaire un vrai club avec des résidents. Très
justement,
important,
résident. Par rapport au club, le Mirano, l'endroit, qu'est-ce que cet endroit apportait de plus par rapport aux autres places où les soirées ont pu avoir lieu?
Alors, il apporte pas mal de choses en plus, la moiteur. Le glamour, la hauteur.
On a d'ailleurs un peu la chaleur ce soir.
Ouais.
Hein ouais.
Le glamour, la hauteur, mm-hmm. Les plafonds à 8 mètres.
Magnifique.
La 3 dimensions.
Oui.
Paul, on va faire Dirty ici. Je dis, et nous on lui dit, mais très justement, c'est pour ça que ça marche plus. Okay. Donc si tu veux faire marcher le Mirano, on va ouvrir le balcon et on va viser grand, parce que si on vise petit, on va rester petit. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande.
Alors, le Dirty Dancing au Mirano, c'est une chose. Et puis, depuis lors, tu es assez présent pour défendre le milieu de la nuit. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce que l'on a vécu depuis plus d'un an, depuis mars 2020, le milieu de la nuit est à l'arrêt. C'est dramatique pour les gens de la nuit. C'est une véritable entreprise. Il y a des indépendants, il y a des salariés. Il y a plein de choses à dire à ce sujet. Et Pierre a évidemment des questions à te poser à ce propos.
Avec toi, donc à défendre le monde de la nuit. On est un peu inquiet de savoir qu'on a l'impression qu'on parle de 2022 à l'ouverture du nightclubbing.
Personne ne connaît la date en fait.
Mais donc, on a l'impression qu'on se décide vers ça, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression qu'il n'y aura rien, on ne cherche pas de solution. Je ne sais pas où vous en êtes dans les négociations avec le politique, pour autant qu'il y ait encore un monde politique qui se mouille pour le monde de la nuit. C'est compliqué.
Alors on est en contact avec beaucoup de politiques, il faut savoir qu'on n'a pas attendu qu'on s'intéresse à nous, de toute façon nous n'avons jamais intéressé personne et on est toujours parti du principe dans la nuit de pour vivons cachés. Donc là il a fallu sortir du bois, parce que c'est tout simple, je veux dire tout le monde s'en fout,
mais pas les gens qui aiment danser.
Alors quand je dis tout le monde s'en fout, je veux dire
les décideurs.
Par défaut, c'est pas la priorité. Alors, je pense que quand je dis tout le monde s'en fout, c'est un peu clash, mais je pense que c'est pas une priorité. La priorité, c'est d'abord de remettre 99,9% de l'économie en route, et c'est tout à leur honneur, je respecte ça. Et donc, nous, on doit toujours se rappeler à leur bon souvenir, c'est de dire, ok, peut-être qu'on fait que 0,1% du chiffre d'affaires du pays, mais nous sommes quand même sans doute au minimum un tiers du temps de la vie des gens. Et nous faisons partie de la solution en termes de sécurité dans les villes, en termes d'activité, en termes d'encadrer la fête et aussi de santé mentale.
C'est un exutoire en fait. Hein.
C'est un exutoire pour parler d'une chose que les gens ignorent. On soigne par le tango la maladie d'Alzheimer. Donc je veux dire, il est clair que la danse est un bienfait pour notre corps.
On va devoir apprendre le tango, c'est ça, Lorenzo ?
Écoute. Ça dépend, chacun fait ce qu'il veut.
Bon, moi je propose qu'on continue à parler de ce sujet qui est extrêmement important, parce que si le Mirano a pu exister, c'est parce que la nuit vivait. La nuit pour l'instant est à l'arrêt. On va continuer à en parler avec Lorenzo Serra d'ici quelques instants, le temps d'un disque sur BXFM. Belle soirée à toutes et tous, vous écoutez BXFM, votre radio pop rock à Bruxelles, qui sort de ses studios, et c'est la première fois depuis longtemps que nous avons l'occasion de venir en ville, puisque maintenant les mesures sanitaires le permettent. Nous sommes au Hall Saint-Germain, un endroit que vous devez venir voir, puisque à partir de vendredi, il y a l'exposition qui est ouverte au public, l'exposition consacrée aux 40 ans du Mirano. Il y a ce soir pas mal d'acteurs du Mirano, et on a Lorenzo Serra qui a organisé les soirées Dirty Dancing, mais pas que, puisque aujourd'hui, ton travail, c'est entre autres de défendre toute la nuit au sens large, parce qu'il n'y a pas que les boîtes de nuit, il y a plein d'endroits encore qui sont fermés.
Oui, il y a ce que nous, on a défini les sédentaires et les itinérants. Les sédentaires qui ont des lieux, pas que des boîtes de nuit, mais des lieux, il y a les bars de nuit aussi. Et puis il y a les itinérants qui sont les collectifs, les labels de musique, les organisateurs de soirées, qui font leurs soirées dans les lieux des autres, ou dans des musées, ou dans des lieux temporaires, ou des lieux abandonnés. Donc il faut effectivement, c'est un monde à deux têtes. D'un côté, on est plus dans la 302, pour parler techniquement, c'est-à-dire l'ORECA et les établissements.
Tu parles de la commission paritaire, c'est ça?
Exactement. Oui. Et de l'autre côté, les itinérants, c'est plus le monde de l'événementiel qui appartient à un autre type de schéma, on va dire.
Il vaut mieux être gitan que bourgeois, en fait, hein, c'est ça?
Par les temps qui courent, il vaut mieux être gitan que propriétaire de lieu, ça voilà. C'est sûr. Ouais. C'est un des moments, je pense, un des rares moments où effectivement il vaut mieux être itinérant que d'avoir des murs. Parce qu'effectivement, avoir des murs, ça coûte cher, même à l'arrêt. Et à Bruxelles, ça coûte entre 8 et 45 000 euros par mois. On imagine les dettes dans lesquelles sont engagés les établissements aujourd'hui, qui sont toujours à l'arrêt depuis le mois de mars 2020. Ça va faire un an et demi.
Mais j'imagine qu'au-delà des conditions sanitaires, les politiques ne te donnent pas de réponse. Ou bien il y a quand même un mini-espoir. Il y a certains qui ont l'air de comprendre ce que tu leur expliques par rapport au milieu de la nuit, et que ça fait vivre une ville, et que ça fait vivre aussi le tourisme, parce qu'il y a du tourisme lié au clubbing et aux soirées. Il y a des gens qui peuvent venir de l'étranger. Quand on pense qu'on va avoir le festival Tomorrowland qui va avoir lieu alors que les clubs sont fermés, j'imagine que c'est frustrant pour toi et pour tous les organisateurs de la nuit.
Alors je vais répondre à toutes tes questions parce qu'il y a beaucoup de sujets là.
Oui, pardon.
Oui, effectivement, c'est un vrai moteur à tous les niveaux. Et on dit souvent « work hard, party hard ». Une ville qui a une nuit qui vit, les jeunes y sont, les jeunes entreprises dynamiques y sont, sinon elles vivent.
Ça fait vivre les hôtels, etc.
C'est très simple. Aujourd'hui, les jeunes ont deux outils de travail, la tête et le laptop, rien d'autre. Et donc les villes de demain, elles sont construites à partir de ça. Ça veut dire que si je suis jeune aujourd'hui, en tout cas dans la tête, je peux aller m'établir à Rotterdam, à Amsterdam, à Berlin, à Paris, n'importe où, tant que j'ai mes outils pour travailler. Le lieu où je suis, ça ne m'importe pas. Et donc sans doute que je vais aller m'installer dans une ville, une métropole qui va m'offrir du plaisir quand j'arrête de travailler parce que je travaille beaucoup. Donc cette notion-là, il faut vraiment l'intégrer. Donc il faut une nuit hyper active pour attirer les jeunes entreprises dynamiques dans les métropoles de demain. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, il est évident qu'on a dû se battre pour trois choses. La première, de l'argent. On nous a fermés, il faut payer.
Il faut que vous puissiez continuer à survivre.
C'est un principe démocratique. C'est-à-dire qu'on a un article 23 dans la Constitution belge qui est le droit à l'unité humaine, le droit au travail et au choix de son travail. Aujourd'hui, on nous a empêchés de travailler. Et donc, c'est un choix politique. Le politique doit dédommager les secteurs qu'il a choisi d'arrêter. Ça se mesure à 15% du chiffre d'affaires. On en est loin. On discute, on a reçu des aides, mais on n'est pas encore à 15% du chiffre d'affaires. Je répète, c'est un choix politique d'ouvrir l'international, des Zara, des H&M, d'ouvrir le commerce et de fermer la culture. C'est un choix politique. La culture, c'est le local, c'est ce que les jeunes veulent. Donc, démocratiquement, on doit payer les gens qu'on arrête. C'est compréhensible, nous sommes des chefs d'entreprise, on comprend très bien qu'on doit nous arrêter pour certaines choses, mais c'est important de nous dédommager à hauteur de notre sacrifice vers les 11 millions de personnes. La deuxième chose qu'on devait travailler, c'est les perspectives et les protocoles de réouverture. C'est très très important, parce que personne ne nous demande d'écrire des protocoles. Donc, on a pris la main.
Et c'est possible, vous avez étudié un petit peu ce que l'on peut faire pour qu'on puisse danser en toute sécurité, j'imagine.
Exactement. Donc on a pris la main, on travaille avec 24 heures Bruxelles, je vois Bram en face de moi. On a travaillé ensemble pour écrire les protocoles de réouverture de la nuit. On l'a fait au niveau national avec des opérateurs de Gand, Anvers, Bruxelles et Wallonie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est d'accord sur un protocole de réouverture de la nuit. En gros, on donne nos clés aux politiques et à eux de décider quand est-ce qu'ils ouvrent nos lieux.
C'est dans leurs mains. Nous, on ne peut que te féliciter de tout ce que tu accomplis parce que tu es quelqu'un d'artistique à la base. Je te connais un petit peu grâce aux soirées Dirty Dancing et au monde de la nuit. Et là, tu parles de commission paritaire, tu parles de tout un tas de choses auxquelles j'imagine tu n'aurais jamais eu d'intérêt s'il n'y avait pas eu cette crise, cette pandémie qui a fermé le milieu de la nuit. Et on pourra encore parler du CIU, mais on n'a plus le temps. En tout cas, on reparlera du CIU sur BXFM à un moment ou un autre. Le CIU qui est dans les anciennes casernes à Excel, un endroit que je vous invite à aller voir et on fera un direct un jour là-bas. C'est promis, c'est juré.
Mais si je dois te conclure par rapport à ça, Paul disait toujours, je te sors par la porte, tu rentres par la fenêtre. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Il ne viendra pas tout seul à toi.
Eh bien,
ça, les gens de la nuit le savent. Tu veux un truc, tu vas le chercher.
Et on compte sur toi pour continuer à te battre pour le milieu de la nuit. Merci Lorenzo.
Jusqu'à la mort.